Bonjour. Bonjour, donc, bienvenue à cette session sur SharePoint 2013, nom de code SharePoint 15. Nous allons avoir le plaisir avec Marius, qui est ici avec moi, de vous présenter cette session, de vous présenter les nouveautés qu'il y a dans SharePoint. Alors, juste une petite note dès le début, c'est que dans cette version de SharePoint, il y a énormément de nouveautés. On a choisi avec Marius un ensemble de nouveautés auxquelles tous les développeurs ou la plupart des développeurs sont confrontés. Donc on va montrer un ensemble de fonctionnalités dans SharePoint qui sont nouvelles. On va vous expliquer comment elles fonctionnent. Et puis il y en a certaines qu'on ne pourra pas vous montrer malheureusement. On les a quand même mises à l'écran, donc vous verrez certaines fonctionnalités. Par contre, si vous avez des questions à nous poser ou des points spécifiques à voir, sur ces fonctionnalités dont on ne discute pas, il faut nous voir, venir nous voir à la fin de la session ou nous envoyer un email, vous aurez nos coordonnées. Voilà. Donc, dans un premier temps. À savoir aussi, il y a deux autres sessions sur SharePoint. Juste après nous, il y a une session sur les applications, l'app model, qu'on va voir ici, différemment de l'autre session. Et puis, il y a une session sur la gestion de contenu, le CM. En parallèle, d'ailleurs, une session sur Office 2013, mais on en reparlera à la fin. Je vous présenterai donc ces related sessions. Alors, nous sommes donc deux ici à vous présenter cette session aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, si tu permets, Marius. Alors, mon nom est Valérie Alonso, je travaille pour Blue Infinity en tant que consultant. Je suis aussi en charge de certaines activités marketing de la société. J'ai travaillé pour Microsoft pendant à peu près plus de 5 années. En tant que consultant dans différents pays. Et j'ai décidé d'arrêter et de revenir sur Genève. Voilà, en bref. Je vais laisser Marius se présenter.
Bonjour. Donc, moi, je suis Marius Constantinescu. Je travaille aussi pour Blue Infinity en tant que lead consultant, notamment sur le pôle SharePoint, solutions collaboratives et architecture solutions Microsoft. À peu près, ça fait 2 années et demie. Auparavant, j'ai travaillé pour des grosses sociétés, pour des gros clients, notamment autour de SharePoint, depuis à peu près 10 années déjà. Et je me joins de vous voir aussi aujourd'hui tant nombreux, vu que SharePoint 15, variante RTM, il vient sortir à peu près 2 semaines, je crois. D'ailleurs, la variante qu'on tourne aujourd'hui, c'est sur RTM, tout, Windows 2012, Visual Studio, Office et SharePoint.
Merci Marius. Alors, bien sûr, vous êtes pressé de voir les nouveautés. Malheureusement, il faut que je vous fasse la petite minute de pub à laquelle certains sont déjà habitués. Donc, la société Blue Infinity est une société de services qui est active dans 3 domaines d'activité, dans 3 domaines spécifiques. On a Systems Integration qui est en fait le développement d'applications. On a toute la base en dessous qui est l'infrastructure ainsi que la gestion de projet. Et puis une partie qui est à la spécificité de Blue Infinity, qui est le branding et le marketing. C'est vrai que la force de Blue Infinity vient du fait que ces 3 domaines d'activité sont très liés dans un projet. À la fois, il y a toujours une partie infrastructure, une partie développement, et normalement, où il devrait toujours y avoir une partie communication aux utilisateurs quand on fait un rollout pour voilà, leur expliquer comment ça va se passer, ce qui va se passer, puis une partie design, une partie usability des applications, hein, donc l'expérience que l'utilisateur va avoir. Par exemple, il ne va pas être obligé de cliquer 10 fois pour pouvoir faire OK. Hein. Tout ça, c'est la partie de usability, donc branding et marketing. Nous sommes un Microsoft partner avec, vous voyez nos compétences ici, donc nous sommes un Microsoft Managed Partner, comme il y en a 7 à peu près dans la région. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide. Ah.
Donc aujourd'hui, c'est une grande journée, mais ce n'est pas parce qu'il y a les élections dans les États-Unis, mais c'est le lancement officiel de Halo 4.
Ah.
Donc je crois que pour les développeurs ou pour nous les geeks, c'est mieux, c'est plus important ça que tous les autres. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle aujourd'hui, ne pas oublier de la commander, déjà les pré-orders sont ouvertes.
Donc c'est dès aujourd'hui la vente de Halo.
Je crois qu'à la FNAC, elle sera déjà sortie.
Bien. Alors à tous les amateurs, voilà. Donc le début de mon agenda, notre agenda. On va voir ces différentes fonctionnalités. Le nouveau Cloud App Model, donc le Cloud App Model, le modèle des applications sur le cloud. Les standards web ainsi que la plateforme, donc tout ce qui concerne REST, les API, tout ça. Developer Tools, NAPA, Visual Studio 2012 et les nouveautés qui vont avec. Et puis, en fin de partie, on va voir plus rapidement, mais quand même, BCS et le workflow, donc Business Connectivity Services et le workflow. Il est clair que dans tous ces blocs, il y a des fonctionnalités nouvelles qui ont été apportées à la plateforme. Maintenant, ce qu'on ne va pas voir, et je le dis tout de suite, ce sont les nouveautés qu'il y a dans le search, en mobilité, il y en a aussi un nombre important. Content management, il y a une session, social collaboration et puis application services, hein, tout particulièrement avec Access. Donc à nouveau, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à la fin de la session. Voilà. Alors, vous avez sûrement entendu dans le SharePoint 2013 de ce nouveau app modèle. En fait, c'est dans cette. Moi, j'aime particulièrement bien cette version de SharePoint parce que ça nous ouvre à un nouveau monde. C'est vrai que jusque-là, on avait SharePoint et Office, donc on a plus d'un milliard d'utilisateurs Office. Il faut imaginer que c'est une opportunité énorme de développer des applications pour cette plateforme. Et dans cette version de SharePoint, et on peut y ajouter Office, puisqu'on a le store des applications, on en parlera, qui est valable pour les deux outils ou les deux plateformes, eh bien, ça va être la possibilité pour vous, développeurs, de mettre une application sur le store et, juste en un clic, de la rendre accessible, en fait, à tous. Donc, vous, en tant que développeur, en un clic, votre application est publiée sur le store. Après, vous pouvez aussi, ça peut être gratuit, vous pouvez mettre un trial, vous pouvez la faire payante. Donc après, il n'y a plus que le ticket d'avion à booker pour partir sur une île. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau monde qui s'ouvre vraiment à nous. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant. Effectivement, avec 1 milliard d'utilisateurs Office, c'est quelque chose qui permet de développer des applications énorme, quoi. Voilà. En ce qui concerne les outils de développement, tout le monde n'est pas un développeur .NET et tout le monde ne veut pas forcément en faire. Et donc, c'est aussi quelque chose de nouveau dans cette release de SharePoint, c'est de pouvoir développer avec des outils qui vont supporter les standards web. Donc, on va parler d'HTML5, CSS, OData REST et ses améliorations, et aussi de OAuth, Open Authentication, pour permettre justement ce modèle applicatif. Voilà. Quelque chose d'important encore, un dernier point, j'aimerais citer sur cette slide, c'est la flexibilité que ça va me donner d'avoir ce nouveau modèle applicatif. Je vais avoir un catalogue sur le cloud, donc le store, sur lequel je vais pouvoir aller chercher des applications, les télécharger, les mettre à jour, les payer. Mais je vais aussi pouvoir avoir un catalogue en interne sur lequel je vais pouvoir faire la même chose. Donc ça va me donner une flexibilité, ça va donner un cycle de vie à mes applications qui va être très simplifié, hein, que ce soit pour les admins ou pour les utilisateurs. Et on va revenir sur ces points-là aussi un peu plus tard. Voilà. Maintenant, Merci. Une chose est claire, c'est qu'on ne veut pas mettre... donc, vous êtes tous ici développeurs. On ne veut pas non plus mettre du full trust code sur le cloud. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau app model et pourquoi je dis ça? Donc, avant, on avait des applications dans les premières versions, dans la version 2003 de SharePoint, full trust code. Donc vous savez bien que si l'application était mal écrite, on avait un problème, on pouvait bloquer son IIS Worker Process puisque tout tournait là-dedans. Donc tout tournait dans le process de SharePoint. Donc ça pouvait bloquer la machine, la ferme, les applications. Donc on a eu, ou Microsoft a eu, a introduit les sandbox. Bien, aussi très bien, une bonne idée sur laquelle d'ailleurs l'application modèle est aussi basée. Seulement, ça avait on perdait un peu en fonctionnalité, hein. Il y avait des limitations. Et donc aujourd'hui, le nouvel app modèle. Voilà. Alors, avec ce nouvel app modèle, ce n'est pas du full trust, ce n'est pas du sandbox. Donc, Marius, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va laisser tomber toutes les applications SharePoint, toutes les solutions qu'on a faites jusque-là, qu'on oublie tout ça, qu'on recommence avec un app modèle tout neuf, ou est-ce que voilà, est-ce que ça va, on va travailler en parallèle avec ce application modèle?
En fait, non, pas entièrement, parce que même si le nouveau app model il est vraiment préféré pour la nouvelle paradigme de développement des applications, par contre, on a encore des fonctionnements qui ne seraient pas accessibles au nouveau app model, et il va falloir rester soit avec le modèle des solutions de ferme, soit avec même les solutions sandbox. D'ailleurs, juste un petit point, avant qu'on passe pour vous expliquer pourquoi. Il faut qu'on se rappelle en plus des détails pourquoi on est arrivé jusqu'ici. Comme Valérie l'a déjà mentionné un petit peu, depuis 2003, 2007 et finalement 2010, les options de développement n'étaient pas vraiment sécurisées par rapport à la stabilité de la ferme, par rapport à la possibilité des administrateurs de contrôler ce qui se passe avec les solutions. Donc finalement, 2003, ils ne nous apportaient rien, effectivement, de packaging. Il fallait déployer les DLL et puis on changeait manuellement les configs pour dire à SharePoint qu'attention, j'ai un nouveau fonctionnement. 2007, bien amélioré. Effectivement, 2007 a introduit le développement ou le déploiement par packaging, étant le modèle plus recommandé à déployer. Par contre, les solutions, ce qu'on appelle des farm solutions, qui sont aussi dans 2010 disponibles, ils ne permettent pas déjà très facilement l'upgrade, donc par rapport aux maintenances, vraiment on avait des soucis. C'est pas facilement à contrôler le scope de chaque déploiement. Et plus important, c'est que n'importe qui fait une solution a totalement accès à tout ce qui s'appelle server-side API ou server-side object model. Cela veut dire qu'une fois qu'on a une solution qui s'est déployée sur SharePoint, 2007-2010 notamment, automatiquement j'ai le contrôle de toute la ferme si je veux. Par rapport à ça, la 2010, elle vient avec ce qu'on appelait des sandbox solutions. Les sandbox solutions, par contre, ont leurs propres limitations. Donc, ils améliorent effectivement le fait que maintenant, au moins, on a la capacité de déployer sur SharePoint Online. Vous savez que les sandbox solutions sont aussi des solution packages. Par contre, le déploiement, ça se fait juste en copiant effectivement le package et faisant un upload sur la collection site où on a besoin du mettre un fonctionnement disponible pour les utilisateurs. Par contre, le sandbox, comme vous le savez, il ne tourne pas dans le cadre du AS Worker Process, il tourne dans son propre processus. Cela limite déjà tout d'un coup la scalabilité de la ferme. Ça nous amène des impacts et des contraintes par rapport à l'architecture de la ferme, parce qu'il faut mettre bien activé sur les frontaux où on veut la sandbox qu'elle tourne, ou le service sandbox, il faut les activer sur les frontaux spécifiques. Et tout ça, c'est encore des contraintes. Évidemment, on a amélioré pour les administrateurs, mais on n'est pas sorti de la forêt encore. Alors, on a inventé ce qu'on s'appelait Client-Side Solutions. Avec Client-Side Solutions, effectivement, on utilisait le nouveau Client-Side Object Model. Cela veut dire qu'on avait trois: Manage Client, on faisait des applications .NET, du genre console qui, en remote, ils attaquaient SharePoint. On avait le JavaScript Object Model. Cela veut dire que, par exemple, dans les cas, un exemple concret, je n'ai vu effectivement des solutions de type client-side comme des champignons, effectivement, dans une ferme, à cause du fait que c'était très facilement de démarrer le JavaScript directement dans un content editor Webpart, et puis voilà, j'ai du code client-side qui peut automatiquement travailler avec SharePoint. Et puis le troisième, c'était, ils étaient les solutions basées sur Silverlight, qui aussi tourne, comme vous le savez, dans Internet Explorer, donc au client, et qui permettait qu'à travers des appels REST ou des appels Web Service à attaquer effectivement SharePoint. Donc, l'inconvénient des solutions client-side, c'est que d'ailleurs, ils n'étaient pas contrôlables. Donc, l'administrateur, il n'a pas le pouvoir de dire ça, tu peux faire ici ou pas. Effectivement, chacun qui avait un peu de Visual Studio ou un peu d'expérience JavaScript, il mettait du jQuery ou du JavaScript partout. Par contre, les solutions, évidemment, client-side, ils étaient facilement déployables. Comme je disais, tout le monde pourrait faire. Alors, globalement, toutes ces solutions, donc, ils apportent pas justement des limitations ou ils ont besoin d'administrateurs. Il a fallu qu'on trouve une solution pour pouvoir permettre aux développeurs de travailler tranquillement avec leurs propres outils, leur propre environ qu'ils sont familiers avec, et en même temps pouvoir laisser la flexibilité d'administrateur de décider quand est-ce que je peux déployer telle solution, je le fais disponible ou pas. Tout ça, si on complète avec le fait que la plateforme Office 2013 elle a été ouverte vers le monde, ça nous a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui Cloud App Model. Alors, le Cloud App Model, il avait un seul bout. Bah, d'abord, les deux plateformes Office et SharePoint se sont ouvertes vers le monde en utilisant un standard web. Cela veut dire que depuis Office, on avait déjà Excel qui était capable, avait des capacités REST d'accéder à des services web en remote. Mais maintenant, toute la plateforme web elle a été reconstruite, toute la plateforme Office elle a été totalement reconstruite. Et le même modèle a été apporté aussi dans SharePoint. Aussi parce qu'on a déjà SharePoint Online ou Office 365 qui tourne avec exactement le même modèle déjà aujourd'hui. Pour regarder un peu le schéma, effectivement, le bout de la nouvelle architecture, c'est effectivement d'avoir toujours l'accès depuis mon système, ma plateforme, à d'autres systèmes externes, tout en sécurité. Pour le développeur, cela signifie que je puisse utiliser déjà depuis aujourd'hui les outils avec lesquels je suis familier. Je peux utiliser HTML, je peux utiliser CSS. Mais ce n'est pas que pour le développeur .NET, il y a pour tout le monde. Si je suis un développeur PHP ou open source avec d'autres outils du genre LAMP, peut-être que vous avez utilisé le bundle du Linux, Apache, MySQL et PHP, qui sont hébergés déjà sur le cloud, vous pouvez tranquillement développer des applications qui peuvent être consommées depuis Office ou SharePoint. Alors, le Cloud App Model, dans le contexte de SharePoint, clairement, cela veut dire qu'on a le support de Visual Studio maintenant qui nous permet de développer et de déployer une solution en utilisant trois options. Je peux rester en tant qu'option de déploiement ou de hosting chez moi, donc sur mon SharePoint en premises. Et ça, c'est ce qu'on appelle SharePoint Hosted. Par contre, quand je déploie sur SharePoint, j'ai une limitation. La limitation, c'est que je peux utiliser que du client-side code. Cela veut dire que dans ma solution, donc dans mon app, je peux faire que du CSS avec JavaScript, du jQuery ou des appels CSOM, comme on les appelle aujourd'hui, le Client Side Object Model. Il a un nom désormais. D'ailleurs, que le JavaScript Object Model, il a aussi un nom, s'appelle JSON. Si, par contre, j'ai une application beaucoup plus complexe, j'ai deux autres options de déploiement qui sont des options de déploiement dans le cloud. Ces deux options, effectivement, nous permettront d'un côté d'avoir des applications beaucoup plus riches qui interagissent avec des systèmes externes ou des web services externes et à la fois qui nous permettront effectivement d'avoir aussi du code server-side. Mais ce code, il ne va jamais tourner sur SharePoint. Et c'est ça le gros changement. Parce qu'il faut comprendre qu'une application web, dans le nouveau modèle, c'est effectivement isolé. Elle tourne quand SharePoint il déploie, quand Visual Studio il déploie cette application, par derrière effectivement SharePoint il crée un sous-site, un web, où il va déployer l'application et avec toutes ses fonctionnalités et toutes ses applications en fait elle est isolée, elle n'aura jamais accès à tout ce qui l'entoure. Pour évidemment se connecter à des listes ou des autres options, je vais utiliser toujours soit Client Side Object Model si je suis un SharePoint hosted, soit je vais devoir déployer l'application dans le cloud. La session qui suit après nous, ça se concentre que sur le Cloud App Model. Je vous invite, si vous voulez encore plus de détails exactement pour comment ça se passe, je crois qu'ils seront traités pour plus tard. Pour nous, ce qui est très important, c'est de comprendre que le nouveau App Model, en fait, nous offre de l'isolation et nous offre à la fois de l'ouverture pour tout développeur qui n'a pas besoin de comprendre comment SharePoint il marche, d'apprendre tout l'object model de SharePoint, comme on le sait, c'est très compliqué. Par contre, ils peuvent directement développer avec tous les nouveaux API que nous allons voir dans les slides à suivre aussi.
Ça veut dire si je sais développer aujourd'hui une application web, je peux développer une cloud app, c'est ça?
Tout à fait. En effet, c'est pour ça que immédiatement on va avoir un petit démo, que ça existe un outil, que tu n'as pas attendu de ça. Il s'appelle Napa, en effet.
Napa.
Et nous allons voir immédiatement.
Alors, l'App Store. L'App Store, c'est donc Microsoft héberge un store sur lequel on va pouvoir publier son application. Donc, effectivement, il y a un processus d'approbation de l'application. D'approbation. Microsoft ne va pas vous dire si elle est bien ou pas bien, mais juste si elle respecte certains paramètres de usability, d'expérience. Et puis, voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir aller sur le store, la poster. Ça, on peut le faire sur le cloud, hein, mais comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un store en interne, hein, un store sur lequel les utilisateurs vont pouvoir se connecter, installer une application. Hein, c'est une installation très simple. Hein, des fois, c'est juste un insert dans Excel ou quelque chose comme ça. Donc, rien de bien compliqué. Et de la même façon, la désinstaller, ce qui facilite, comme je disais encore tout à l'heure, le cycle de vie des applications, la gestion, l'administration derrière tout ça. Et puis, l'ouverture pour toute application à des milliards d'utilisateurs. Vous pouvez encore vous connecter là sur le site et poster votre première application en quelques clics. Et vous avez la chance de, peut-être, vous aurez la chance de gagner un prix, ceci pour encourager les développeurs à pas hésiter à essayer de poster une application. Hein. Je dis, si, quand on sait développer une application web aujourd'hui, vous saurez alors développer une app cloud, donc une application pour le cloud. Donc ici, j'ai mis un ensemble de... J'ai pris un petit screenshot pour vous montrer que certaines applications, on a un rating pour les applications qui ont été les mieux évaluées. J'ai pris juste certaines pour SharePoint, les premières qui étaient là. Voilà, donc on a ce genre d'application pour Office, on l'a pour SharePoint. Donc si vous allez sur le store, vous allez voir pour Word, Excel, et puis vous allez pouvoir regarder les applications qui vous intéressent, qui peuvent vous aider... améliorer votre productivité. Donc ça devient un nouveau monde et très simple. Voilà. Alors je te repasse la main, c'est ça, pour ta démo? Et tu vas faire une démo de?
Du Napa.
Alors Napa, qu'est-ce que c'est? En deux mots?
Bah, finalement, comme on disait, vous pouvez déjà depuis aujourd'hui, même si vous n'êtes pas de développeur SharePoint, développer des applications pour SharePoint. Pour y faire, il faut se connecter sur l'Office 365 Developer Site, qui est gratos. Ça vous prend 30 secondes à peu près, vous enregistrez avec votre compte live. Et finalement, vous auriez un site, à peu près comme ça.
Juste pour dire que Napa, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une petite application.
Tout à fait. En effet, Napa, elle est en soi une application de type SharePoint qui tourne sur le cloud, donc l'Office 365. Qui effectivement vous permet de développer des applications. Alors, comment ça se passe normalement? Vous voyez que j'ai les outils ici. Ça prend un peu de temps.
Donc, Napa, il suffit d'aller sur le store et de télécharger cette petite application.
En effet, elle maintient la liste de tous les projets que j'ai travaillé par avant. Vous avez directement l'accès à votre projet. Vous pouvez reprendre si jamais vous avez perdu la connexion ou vous voulez juste sauvegarder votre travail. Dans ce cas, on a deux petites applications. Il suffit clairement juste de faire Add New Project. Et après, vous avez les options de développer soit pour Office 2013, soit pour SharePoint 2013. Dans ce cas, on va juste simplement faire une autre appli. On laisse par défaut. Le but, c'est juste de vous montrer un peu. Comme je disais, vous pouvez directement essayer vous-même.
Donc ça, c'est cet outil Napa, hein, c'est un outil de développement basé sur le browser, simplement.
Alors, première expérience, ça c'est en fait déjà une SharePoint app. C'est une SharePoint app qui va tourner sur ce portail, donc elle sera déployée sur mes propres sites, effectivement. Si on regarde juste vite la structure, elle sera toujours pareille. On a une page web qui va exécuter le boulot, le code effectivement, soit... qui peut être une web part, qui dans le contexte de SharePoint App s'appelle App Part, et n'aura jamais, comme je disais, 100% accès comme on l'a maintenant. C'est un peu différent. Soit ça peut être une page qui, en fait, sera la page d'accueil qui va exécuter le boulot. Et après, on a effectivement une liste de scripts, notamment le app.js, qui sera automatiquement chargé par SharePoint dès que mon application elle commence. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, déjà, on voit tout d'un côté, tout d'un coup, on a du IntelliSense et on a du coding, qui c'est du color code. C'est presque la même expérience qu'avec un Visual Studio. Évidemment, c'est pas si riche qu'avec Visual Studio, mais il y en a quand même. Ce qui se passe, c'est que dans la solution, dès que la page elle est chargée, vous reconnaissez peut-être des petits morceaux de code qu'on faisait dans Client Side Object Model. Automatiquement, certaines pages ils seront appelées. La méthode SharePoint Ready, elle existe toujours là. C'est la première méthode, c'est votre point d'entrée. Finalement, jusqu'à maintenant, on faisait des Document Ready, soit avec jQuery, soit directement avec JavaScript, où on mettait du code pour qu'on se rassure que ça s'exécute, ou on faisait des execute, il y avait des méthodes Client Side Object Model execute après le sp.js sera chargé. Donc, juste pour un peu démo, si je fais Control Space, exactement comme dans Visual Studio, vous voyez, j'ai un peu d'intelligence qui me permet effectivement de développer avec toutes les API qui existent dans Client Side Object Model. Je trouve que ça fait chouette, effectivement, si pour les développeurs client-side, ça vous ouvre vraiment des horizons. On va essayer de déployer ça, parce que c'est vraiment très simple après. En bas, vous avez les commandes. Si je fais Run Project, il va commencer à packager cette application. Le packaging, c'est utilise ce qu'on appelle le standard packaging. Il y a un standard qui nous permet effectivement globalement de zipper. C'est pareil un peu avec le WSP. Sauf qu'il embête aussi ce qu'on appelle un app manifest XML qui, d'un côté, il spécifie quelle est la page qui sera lancée dès que mon application sera exécutée, ou elle spécifie aussi quelles sont les permissions de mon application. Si vous avez déjà installé des applications sur des systèmes Windows Phone, votre portable surtout, vous avez vu que de temps en temps, vous êtes demandé telle application demande telle permission, est-ce que vous voulez le laisser. Le même concept a été amené dans SharePoint. Les SharePoint apps, ils vont exécuter pareil, et c'est à travers ce app manifest que le développeur il va spécifier quelles sont les permissions requises par cette application pour qu'elle puisse s'exécuter dans SharePoint. Bah, finalement, mon application ne fait pas trop grand-chose, et je prends juste le nombre d'utilisateurs courants par rapport au contexte du site et le montre. Mais si je suis plutôt un développeur Visual Studio, donc j'ai ma propre licence, je vais pouvoir aussi ouvrir cette application dans Visual Studio pour avoir une expérience beaucoup plus riche, évidemment, et complète. Et je vais faire ça tout simplement en appuyant sur le bouton Open in Visual Studio, qui va packager tout ça encore une fois pour moi et va la transférer avec un click once sur mon portable. Et finalement, je vais retrouver exactement les mêmes pages, les mêmes JavaScript que j'ai vu dans mon système. Et après, je vais pouvoir clairement soit changer quelque chose. Vous voyez, il vient avec un client part. Je retrouve le même code. Il va demander s'authentifier encore une fois. Alors, et je vais pouvoir même faire du debug en live, ce qui va faire effectivement qu'il va packager la solution et puis il va lancer chez moi l'application si je mets peut-être ici. Ouais. Dès qu'il va déployer le package, effectivement, là. On ne peut pas dire que ce n'est pas secure. Je me demande chaque fois. Je vois les applications. Ils apparaissent dans un catalogue à l'interne. Effectivement, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais dans SharePoint 2013, il y a un changement. Chaque liste ou library qu'on avait, maintenant, elle est elle-même une app, effectivement. Maintenant, on n'a plus de new list ou new site, on fait justement des apps. Donc, c'est la même paradigme qui a été repris 100%, et il va falloir que vous faites pareil. Donc, mon appli s'appelle SharePoint App 3, il faut juste que je clique dessus, et puis il va lancer son propre fonctionnement aujourd'hui. Et en effet, il charge mon application dans un iframe. Et si je vous montre mon Visual Studio. Vous voyez qu'il a déjà il a tombé sur le breakpoint. D'accord ? Donc, on reprend les slides. Donc, comme on a vu déjà depuis aujourd'hui, vous pouvez démarrer, développer pour SharePoint 15 sans souci avec cet outil. C'est assez intéressant. Ça marche assez bien. Et puis, l'intégration avec Visual Studio, déjà d'ailleurs, même si vous préférez Visual Studio, c'est assez génial. On reprend ? L'autre slide. Ah. Voilà.
Alors, dans quel cas je vais développer des solutions et dans quel cas je vais développer une application, ce nouveau type d'application?
Pour l'instant, les règles d'or, si vous voulez, sont que c'est recommandé de démarrer avec les apps chaque fois que vous pouvez. Par contre, les options ou la flexibilité que vous auriez par rapport au type d'application que vous développez et après déployer seront aussi limitées par rapport au type du hosting que vous allez choisir. Donc, comme on a dit, si vous faites SharePoint Hosted, donc chez vous en premises, vous n'avez que le choix du client-side object model et les nouveaux REST API dont nous allons parler. Si par contre vous avez besoin d'une application beaucoup plus conséquente, là vous avez les deux options du cloud hosted qui peuvent être soit totalement déployées sur le cloud, soit partiellement, donc c'est des solutions hybrides, qui peuvent travailler en combinaison avec une application on-premises et puis un hébergement en cloud, donc une autre application qui peut être même un ASP.NET MVC, un WebForms ou une autre application web de type PHP, ce n'est pas important. Parce que la communication, ça ne se passe pas à l'intérieur de votre SharePoint, par contre, ça se passe avec le système externe. Et tout ça, c'est soit client-side, JavaScript ou Web Services. D'accord ? Il y en a toujours des fonctionnalités, comme on l'a dit au début, qui ne peuvent pas être développées avec SharePoint App, et ça, c'est toujours les extensions de la Central Admin. Il y en a toujours des Timer Jobs ou des services, des Custom Services, qu'il va falloir que vous restiez avec les Farm Solutions. Certains, si vous ciblez SharePoint Online, même si pour le SharePoint 15 ce n'est pas recommandé, vous pouvez quand même rester avec Sandbox Solutions pour pouvoir vraiment déployer sur SharePoint Online. Mais c'est que pour cette option limitée où il va falloir que vous architecturez vos applications comme on le faisait jusqu'à maintenant. Il y en a certains qui ne sont pas supportés du tout déjà dans SharePoint Apps, alors que évidemment c'est les Farm Solutions, comme par exemple développer des application services, des application pages. Vous pouvez utiliser, vous pouvez ouvrir une application page qui existe, mais vous ne pouvez jamais faire avec un SharePoint App un application pages. Donc pour cela, Farm Solutions. Event Receivers, Feature Receivers, ce qui reste localement, c'est bon. Il y a un nouveau, nous allons voir immédiatement, qui s'appelle Remote Event Receivers, qui s'est recommandé pour les SharePoint Apps. Par contre, pour tous les autres déploiements, tout ce qui touche Layouts, tout ce qui touche Control Templates, donc les répertoires physiques, ce n'est pas recommandé du tout. Ce n'est pas possible de déployer des fichiers physiques. J'espère que ça répond à quelques questions. Et on va finaliser par encore montrer un peu les bénéfices de ce modèle. Donc, effectivement, on a dit que les nouveaux modèles ne vous forcent pas d'apprendre SharePoint. Vous avez toujours OData, vous avez toujours REST qui vous permet d'attaquer le contenu d'un site SharePoint. Vous avez toujours JavaScript qui reste un des plus usagés en termes du client-side développement. Ce qui vous apporte aussi pour un développeur, c'est la possibilité d'augmenter votre revenu. Parce que maintenant, aujourd'hui, déjà, vous pouvez développer une petite app et la publier. Il y en a déjà en centaines sur le store public. Par contre, il y en a certaines validations que Microsoft vont le faire, comme Valérie l'a déjà mentionné. Tout le monde va bénéficier de ça. Moi, en maintenance, beaucoup plus de contrôle. L'administrateur, il peut gérer qui peut déployer quelle application. Ça passe en une étape de testing, il y en a des listes séparées. Donc finalement, le nouveau app model, ça ouvre vraiment un monde pour les développeurs et plein d'autres possibilités.
Bien. On va passer à la section d'après. Donc, on a vu le Cloud App Model. On va passer au, Web Standard et à la plateforme en elle-même. À nouveau, dans cette nouvelle version de SharePoint, on a le support d'HTML5, hein, sachant qu'à peu près 75% des développeurs font du HTML5 aujourd'hui. C'est important de supporter ce standard. On a du CSS3. On a développé aussi, dans ce qui concerne la plateforme en elle-même, les API. Hein, REST au data est nouveau en un certain sens, et de toute façon fortement élargi. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Marius va nous donner un aperçu des standards web qui sont implémentés, dont le nouveau OpenAuth, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, Open Authentication. Et il va nous donner un aperçu des différentes API qu'on va pouvoir utiliser pour développer avec SharePoint.
Alors, dans SharePoint 2013, vraiment, il y a un refonte de toute la plateforme. Effectivement, tout ce qu'on avait, Client-Side Object Model, c'est vraiment renforcé. Maintenant, on a l'accès à presque tous les services du SharePoint avec Client-Side Object Model. Cela veut dire que depuis JavaScript, .NET, Managed Code, si je fais de Silverlight ou de console, et la nouvelle OData REST API, je vais avoir accès à presque tout. Ce qui n'existe plus, d'ailleurs, c'est très important, les services SOAP, donc tout ce qui avait ASMX, et tout ce qui avait appel vers le OWSS Server DLL, notamment même les views par avant du SharePoint, ils utilisaient exactement ce DLL. Donc ces deux API, ça existe, ils n'existent plus. Il ne faut plus les utiliser, il faut changer totalement votre code, soit pour le CSOM, JSON, soit pour le reste au Data API. Ce sont les plus importants. Ce qui est par contre très génial avec les nouvelles API, c'est qu'ils ont été uniformisés. Donc effectivement aujourd'hui, pour quelqu'un qui commence à développer dans JavaScript, .NET ou avec les REST API, il va utiliser exactement la même façon de se connecter à des objets ou de retrouver les propriétés ou les listes, d'attaquer les listes librairies qu'il veut. Par exemple, dans le cas à gauche, on a un appel REST data. Vous savez que REST, il nous permet à travers l'URL directement d'attaquer et avoir le réponse soit un JSON, soit un Atom, format Atom, directement dans le browser. Cela permet vite de valider le contenu, valider que vous avez bien fait votre appel depuis code. Manage code, on faisait, c'est .NET Silverlight ou .NET effectivement avec une console. C'est pareil. Et comme vous voyez, on a énuméré juste quelques-unes. Chaque service ou chaque région, on peut dire chaque area de SharePoint, il a maintenant un équivalent dans ce Client-Side Object Model. Donc finalement, il n'y a plus besoin de SP Web Services ou d'autres types du bricolage qu'on faisait, parce que de toute façon, je les ai maintenant. Évidemment, ça n'existe pas en application SharePoint qui n'a pas besoin d'accéder aux données. Si vous regardez clairement, on a deux directions. Soit moi, comme application SharePoint, j'essaie d'accéder dehors, soit quelqu'un, ils essayent à toucher les objets SharePoint. Donc on a ce qu'on appelle le scénario inbound. Donc une application remote, il essaye à ouvrir des données ou accéder des données depuis SharePoint. Et maintenant, on a déjà plusieurs possibilités de connexion. Tout ce qui avait Windows Authentication, maintenant, ça n'existe plus. Il est tout passé en claims. Vous allez dire, ben oui, mais quand même, j'ai mon compte utilisateur domaine. C'est parce qu'en fait, c'est le claims qui reprend votre credentials, il va transformer dans le SP User, il va s'en charger de s'authentifier. Donc, même si maintenant vous voyez Classic Authentication par derrière en fait ces claims, cela a ouvert en fait notre modèle. Il nous a ouvert OAuth. C'est le standard plus connu au monde et plus utilisé déjà d'ailleurs, qui nous permet des connexions d'authentification à autorisation assez complexes à des données externes des services. Vous avez utilisé déjà Facebook ou Twitter, eux aussi ils font ça avec le protocole OAuth par derrière. Il y a un autre avancement, surtout pour la partie JavaScript, qui s'appelle un cross-domain library, qui nous permet à l'intérieur de mon application web, avec client-side script, JavaScript, de passer d'une collection site à l'autre et retrouver des données. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Mais avec ce library, je peux faire des appels externes depuis dehors de ma collection site et répatrier des données de l'autre collection site. Évidemment, en termes d'accès données, on a toujours les JavaScript ou les .NET, donc tout ce qui est avec Client-Side Object Model, ou plus nouveau, d'ailleurs recommandé, c'est les REST APIs que nous allons voir. Pour la communication externe, donc en SharePoint, il a besoin d'accéder à quelque chose. Il y a une nouveauté, nous allons parler très clairement immédiatement, c'est le Remote Event Receiver. Event Receivers sont les events qu'on attache à une liste en librairie pour être informé qu'il y a quelque chose qui change et puis pour faire quelque chose immédiatement, de genre Item Added, Item Updated. Avec le nouveau Remote Event Receiver, on a une autre possibilité. On a une possibilité d'appeler un service externe qui va faire quelque chose pour nous automatiquement. Donc c'est SharePoint qui s'en charge à travers ce Remote Event Receiver de transformer notre appel et de l'envoyer là où il faut, donc sur le endpoint correctement. Il ne faut pas que vous créez vos propres services et puis c'était une option effectivement qui n'existait pas dans SharePoint jusqu'à maintenant. Mais finalement, avec tous ces API, qu'est-ce qu'on fait et laquelle on choisit? Parce que vraiment, ça devient de plus en plus complexe, ça devient de plus en plus, même si c'est riche, c'est aussi complexe. Donc, jusqu'à maintenant, on avait plutôt du server-side object model qui nous permettait toujours d'exécuter du code sur la ferme, du genre sur la centrale admin si on voulait faire des changements. Pour les timer jobs, application pages, il va falloir qu'on reste avec ça. Pour les client-side object model, on peut les utiliser dans n'importe quelle situation, partant avec SharePoint hosted SharePoint app, avec une console.NET, ou même pour les applications qui sont hybrides, donc ils ont une partie dans le cloud, une partie dans votre SharePoint, on va pouvoir utiliser ce client-side object model depuis le web role, worker role dans Azure. JavaScript object model, donc le JSON, il reste toujours très utilisé, à savoir que le client-side object model et le JSON sont les seuls qui sont transactionnels et qui peuvent faire des opérations en badge. C'est très important quand vous allez faire beaucoup d'opérations d'éviter de faire des opérations chatty, comme on les appelle. Donc c'est QA à travers API qu'on va pouvoir faire. Reste, il ne se porte pas. Standard, effectivement, vous avez fait le requête, c'est fini. C'est tout 100% stateless. Mais avec les deux CSOM et JSON, vous avez l'option. Nouveau dans SharePoint 2013, c'est aussi un client API pour les mobiles. Déjà dans Visual Studio, une fois qu'il y a un SDK installé, téléchargé, une fois qu'il l'avez installé sur votre PC, vous avez des nouveaux types de projets qui vous permettent à 7 heures, parce que les outils sont encore en bêta, en preview, à 7 heures développer pour Windows Phone 7.1, 7.5. Pour le 8, je crois qu'il va arriver bientôt. Mais jusqu'à là, c'est nouveau dans 2013, donc si vous faites des applications qui ciblent Windows Phone 7 ou 7.5, vous avez déjà le client-side object model spécifique pour ça. Alors, on avait mentionné un peu les Remote Event Receivers. Les Remote Event Receivers, tout simplement, ils nous permettent effectivement, une fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma liste, d'annoncer ce qui s'appelle un App Server, qui en fait c'est une application web elle-même. Et à son tour, cet App Server, il peut faire quelque chose qui vous développez dans l'App Server. Donc effectivement, imaginez, vous avez une application qui tourne, une web app dans quelque part. Il y a ce Remote Event Receiver qui va s'en charger d'appeler votre application, mais après vous avez toute la liberté de développer dans votre App Server, qui peut être dans le cloud, qui peut être local ou sur votre serveur, qui va s'en charger après d'envoyer cet App Server les notifications et vous faites du code. Visual Studio nous permet de faire ça, en effet il nous fait deux petits projets, l'application web elle-même et le petit projet SharePoint App, chaque fois qu'on fait un nouveau Remote Event Receiver. Malheureusement, les outils maintenant sont un peu, vu qu'on a le RTM et le preview, les outils ne permettent pas de créer, il y a des incompatibilités entre les API. Donc certaines fonctionnalités ne sont pas effectivement disponibles, sauf si vous repassez ce preview totalement. Alors, on a mentionné le OAuth, juste tout simplement, parce que c'est assez compliqué en termes du processus. C'est ce qui s'appelle en anglais « three-legged authorization ». Il y a le client qui demande l'accès, il y aura un autre token qui va lui passer, donc il passe ce token, qui est finalement, le token il passe pour validation et revient avec une deuxième validation vers le client qui va finalement être capable de charger les données. Donc c'est un peu compliqué en termes de processus, par contre ça ouvre des scénarios d'authentification avec toutes les plateformes ou les services externes. Alors, on passe tout de suite à Developer Tools.
Alors, bon. Là, une petite introduction sur NAPA. Donc, on a vu que NAPA était une application qui permettait une application qu'on trouvait sur le store, qui permettait de développer des applications sur SharePoint Online, Office 365. Qu'on pouvait importer ça dans Visual Studio pour travailler son application plus en détail. On a aussi des améliorations, donc ça c'est nouveau. On a des améliorations avec Visual Studio 2012, une intégration vraiment complète avec SharePoint, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis on a un nouvel outil qui est le SharePoint Design Manager, qui va nous permettre de travailler sur le design du site. Hein, donc ça c'est un nouvel outil, on ne va pas rentrer en détail, ce n'est pas un outil non plus de développeur. On va travailler avec ses snippets et puis refaire le branding du site de façon assez facile. Maintenant, si on veut faire du design avancé de site, on a toujours le Design Manager 2013, SharePoint Designer 2013. C'est aussi le seul outil avec Visual Studio qui nous permet de faire du workflow. Voilà, donc, alors rapidement une petite démo, parce que j'aimerais qu'on ait le temps encore de faire BCS et le workflow.
Juste un petit, juste annoncer, effectivement, SharePoint Designer, peut-être vous avez lu les logs, il n'y a plus du design time. Donc SharePoint Designer, il ne fait que du code. C'est la conviction Microsoft que finalement, que les vrais développeurs vont pouvoir effectivement développer avec un outil si puissant comme SharePoint Designer. Donc il n'y aura plus de tout. J'ai la variante RTM, il n'y en a plus. Par contre, il excelle dans des autres fonctionnements. Donc effectivement, quand on faisait des petites web parts, on avait le design time, on voyait effectivement ce qui se passe chaque fois que je changeais un peu le XML, XSLT. Maintenant, il n'y a plus. C'est que du code. Alors, je vous montre un petit appli, vu qu'on est dans un monde Windows 8 à peu près aujourd'hui. On s'est dit que peut-être ça fait bien de vous montrer une petite intégration avec toute la nouvelle REST API et une application Windows 8. Ça nous a pris en fait presque une heure de faire cette application. Parce qu'en fait, le SharePoint, le REST API, il nous permet très facilement de se connecter. Il n'est pas super génial parce qu'il est boosté. Vous voyez, ça charge progressivement parce qu'il y en a des async tasks. Effectivement, j'ai simulé une conférence. Donc, on a deux tracks, IT Developer et puis les développeurs et l'IT Pro, que je le montre dans les petites îles, qui viennent de SharePoint, dans des listes SharePoint qui sont cherchées par derrière à travers les REST API. Je vais vous montrer exactement le code. Quand je clique ça, je charge le contenu de la session. Donc j'ai quelques informations par rapport à la session, le titre, la chambre et puis quelques données. Donc c'est assez simple. Le but étant pas de faire une super jolie application, le but étant justement de vous montrer l'intégration. Donc juste pour revenir un peu à Visual Studio, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc tout simplement, c'est un template par défaut. Et si. Allez, ok, il est bon. Donc j'ai mes petites classes. Et le gros du code, il n'y a que ça en fait. Donc d'abord, je spécifie quelle est l'adresse où se trouve mon site. Après, je descends à travers les backslash. Je navigue effectivement sur les listes. Donc je lui dis que je suis intéressé par voir les listes. Et j'utilise la méthode getTitle pour extraire une instance de cette liste-là. Et effectivement, je cherche tout ce qu'il trouve à l'intérieur. Optionnellement, avec le protocole REST, c'est lui effectivement qui fait ça, donc c'est pas .NET, c'est pas Microsoft, c'est le protocole REST effectivement. J'aurai la possibilité même de spécifier à travers le SELECT certains champs qui je suis intéressé. Pourquoi je ferais ça? Par raison de performance, effectivement. Parce que si on a une cinquantaine de champs, on ne veut pas tous les charger, notamment quand on a plein des enregistrements. Donc, dans le cas avant, on a même rajouté un filtre. Je vais pouvoir filtrer, et ça marche avec des fields de type lookup aussi. Donc, je vais pouvoir filtrer, si j'ai des related lists, je vais pouvoir filtrer sur la liste relationnée certains enregistrements. Et après, je charge le contenu en utilisant, c'est en façon standard dans Windows 8, il y a un client, HTTP client, qui me permet de spécifier quelques options, notamment dans ce cas, on a ce qui s'appelle le Atom XML, donc je dois spécifier que je veux que le contenu soit retourné comme Atom et pas comme JSON, même si Atom il est par défaut. Et après, il y a ce qui est très important, c'est juste de lui dire qu'il faut que je m'authentifie avec les default credentials. Finalement, une fois que l'XML y revient, je fais que parser l'XML avec un XML to link, une link to XML, et puis je construis mes objets, et après ça, c'est le data binding qui reprend. Donc vous voyez, juste avec quelques morceaux de code, je me connecte déjà à des informations qui existent dans SharePoint et je les expose. Donc, les nouveaux API, ça vous apporte un nouveau monde, effectivement, des ouvertures sur des différentes possibilités qui, jusqu'à maintenant, ils n'étaient juste pas.
Merci. Alors, BCS, Business Connectivity Services, je pense que quasiment vous tous connaissez donc BCS, qui vient de lancer l'ancien BDC, Business Data Catalog. Donc BCS a été amélioré, je vais rapidement passer la main à Marius, mais effectivement aujourd'hui on peut attaquer des data sources, des sources de données à travers OData. Donc ça nous élargit encore le champ d'application de BCS. Et je vais te laisser en parler parce qu'on n'a pas trop de temps, tu rentres dans les détails.
Alors, BCS, on le savait, c'est une façon de SharePoint de s'intégrer avec les sources d'intérêt des informations externes, base de données SQL, WCF Service ou même un assembly DLL qui avait une certaine signature qui nous permettait à charger des données. Donc à travers BCE, on pouvait vraiment repatrier des données externes SharePoint et faire en sorte que l'utilisateur du SharePoint il a le même comportement, le même look and feel que n'importe quelle liste de SharePoint. C'est effectivement l'avantage du BCS et c'était une plateforme assez importante. Elle a été encore améliorée, plus importante. Maintenant, les external lists sont ouvertes ou sont disponibles à travers le reste aussi. Donc, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas attaquer les listes externes qui montraient des données depuis SharePoint à l'interne. Maintenant, par contre, il fonctionne exactement comme toutes les autres listes. Donc, on a le JavaScript Object Model, on a le reste qui puisse charger des données depuis les listes externes. Finalement, si vous avez une application externe, si je voudrais faire le Windows Suite pareil, je vais pouvoir charger des données de listes externes. Encore en plus, il y a un nouveau, ça s'appelle External Content Type, qui c'est upscoped. Cela veut dire que je vais pouvoir développer des SharePoint apps. Les solutions BCS, jusqu'à maintenant, ils étaient des farm solutions toujours. On ne pouvait pas développer, sauf si on fait un full trust farm solution qui, après l'administrateur par derrière, il la configure et la met à disposition. Maintenant, avec ce upscoped external content type, on va pouvoir développer des SharePoint apps dans toute sécurité, isolation, qui vont pouvoir charger des données externes et n'importe qui, effectivement, comme développeur, va pouvoir développer et déployer ces applications. Par contre, on a une restriction, ces apps external content type, ils ne fonctionnent qu'avec OData. Donc, vous pouvez attaquer que des sources de type OData et pas n'importe quel type de source, de genre un SQL ou d'autres choses. C'est le modèle sécurité, ça fonctionne dans le même cadre de sécurité où on n'a pas accès à des server-side code depuis un SharePoint app. La même intégration a été remaniérée pour fonctionnement avec SharePoint 2013. Évidemment, tout ce qu'il y avait déjà dans la licence SharePoint Enterprise, il reste encore capacité de chercher les données et toutes les autres profile pages, les data web paths qu'il y en avait. Ce qui est très important, c'est que les mêmes outils Visual Studio maintenant supportent les trois nouveaux API. Le REST API, Client-Side Object Model et les nouveaux Remote Event Receivers qui même pour les externalistes, ils vont marcher. Donc, ils vont pouvoir envoyer des événements dehors SharePoint à d'autres pages ou à d'autres applications. Ce qui fait que ça ouvre effectivement 100% du même fonctionnement de la plateforme SharePoint pour les utilisateurs.
Je te laisse enchaîner sur le workflow.
Finalement, le workflow, c'est un grand changement. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mentionné parce que le workflow jusqu'à maintenant, il tournait sur les frontaux SharePoint. Le workflow, il était, j'ai vu des situations dans des grosses entreprises qu'à cause du workflow qu'ils étaient faits trop dans le loop en utilisant des systèmes externes qui facilitaient pour les utilisateurs de genre un Intex ou Kadu, faisaient effectivement tomber toute la ferme. C'était un gros problème de scalabilité et de performance de la ferme parce que même si la ferme ne faisait rien, si les workflows ils étaient mauvais construits, effectivement, ils avaient d'impact direct. Alors maintenant, dans cette nouvelle architecture, le workflow a été totalement externalisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Effectivement, ce n'est pas qu'il tourne sur notre serveur, il a sa propre ferme. Il tourne dans le cloud. Donc le workflow, il est devenu maintenant un full application service. C'est un service comme tous les autres. Par contre, qui communique, comme on voit aussi dans l'image, qui communique à travers un Azure Service Bus qui s'est installé sur votre ferme SharePoint. Donc, à l'installe de la configuration, effectivement, le App Fabric il sera configuré pour héberger un Azure Service Bus qui fait la liaison entre votre ferme. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas de code qui tourne sur la ferme. Donc, le workflow, même s'il a l'air de tourner, par contre, il s'exécute à l'extérieur. Et c'est ça le gros changement. Parce que maintenant, la ferme SharePoint ne sera plus impactée par les mauvais workflows. Je ne dis pas qu'on ne fait pas, mais de toute façon, maintenant, on est secure au moins. Ce qui fait que aussi le modèle de bouger dans un Azure Cloud nous apporte aussi une autre importante capacité. On pourra faire une ferme basée sur Azure qui fait que de workflow. Donc si jamais vous avez des processus super intensifs, vous avez toujours la possibilité d'augmenter, rajouter une autre serveur sur la ferme Azure qui tourne avec des workflow services. Et tout ça, ça ne va pas changer du tout votre ferme. Il y a totalement une autre config à travers 100% à travers PowerShell qui va vous aider à gérer tout ça.
Donc ça veut dire que maintenant il me faut obligatoirement un compte Azure pour faire du workflow?
Partiellement il faut, parce qu'on a toujours Azure Access Control, donc le ACS qui est par contre Azure.
Quand on traverse ces domaines.
Quand on a besoin d'envoyer des données externes et s'authentifier à travers OAuth, il a besoin d'avoir ce compte ACS activé. C'est important en termes de changement quand même. N'oubliez pas, toujours, il y a le OAuth, en fait, Client-Based Authentication, mais il y a ce mécanisme qui vous permet, depuis votre workflow, d'accéder à des services externes, ce que nous allons déjà expliquer immédiatement. Il y en a des changements déjà dans les outils. Visio 2013, maintenant, les professionnels supportent du design de workflow. Des nouveaux éléments ont été introduits, comme par exemple, maintenant, on a ce qu'on appelle dans les workflows itératifs, on a toujours un stage. Effectivement, je peux grouper des activités dans stage. Mais cette fois, j'ai la possibilité de sauter d'un stage à l'autre. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas les stages. Ils étaient juste pour grouper les activités, donc juste des pictogrammes. Il n'y avait pas de vraies fonctionnalités par derrière. Par contre, maintenant, il y en a. SharePoint 2013 aussi, le designer a été vraiment amélioré et des nouvelles activités ont été intégrées. Comme par exemple, si vous travaillez avec Microsoft Project Server, vous avez maintenant des activités dédiées à travailler avec le Project Server. Ce sont des activités que vous pouvez intégrer dans votre workflow. Une activité que j'ai trouvée très importante, c'est le Call HTTP Web Service. Ça, c'est nouveau. Ça vous permet facilement, depuis votre workflow, de faire des appels externes. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Et l'exemple, c'est que, par exemple, à travers des informations au data, vous pouvez répatrier encore une fois, d'une autre manière, des données depuis votre workflow, en utilisant cette activité. Les autres fonctionnalités qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, Site Workflow, nouveau Reusable Workflow, sont encore là, donc il n'y a rien qui s'est changé. Les plus gros, deux gros outils du développement restent toujours Visual Studio et SharePoint Designer. Par contre, le seul qui, évidemment, peut créer des vrais workflows en utilisant le Workflow 4.0, qui ça fait partie de .NET, c'est à travers Visual Studio. Donc l'autre, il fait encore, comme jusqu'à maintenant, que des sequential workflows. Oui.
Alors, voilà. Un petit résumé. Alors, on a vu le Cloud App Model avec cette nouvelle plateforme qui est une opportunité énorme pour vous, développeurs, de publier vos applications en un clic et de les rendre accessibles à tous. On a vu les web standards, hein, le support en fait des standards web, HTML5, CSS, la possibilité de développer avec son propre outil de développement, qui ne soit pas forcément du .NET. Et le support, l'ouverture sur les standards web. On a vu les nouveaux outils de développement avec principalement Napa, la petite démo, un petit Visual Studio dans un browser en fait, qui permet de rapidement de développer une application. Et puis, le nouveau BCS, les améliorations qui ont été faites, ainsi que le workflow. Voilà. Marius, je te laisse peut-être encore rajouter.
Évidemment qu'avec toutes ces nouveautés, tous ces changements dans l'API, avec le SharePoint Model, ça fait difficile d'essayer dans une heure, effectivement, du tout coincer. C'est pas possible. Normalement, chaque de ces sections mérite sa propre attention. On laisse déjà la session qui suit de vous expliquer encore, de continuer sur ce qu'on a vu sur le Cloud App Model. Et il y a une autre session sur Content Management aussi,
alors,
je crois, même aujourd'hui.
Il y a les sessions, vous avez encore trois sessions. Les apps avec les nouveautés qu'il y a sur SharePoint 2013. Dans la salle là, on est dans la salle Rome, donc c'est dans la salle Berlin, à 15h15, donc juste après. Et puis après cette prochaine session, vous avez deux sessions, une qui parle de SharePoint et du Content Management, donc de la gestion de contenu, et une sur Office 2013. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci.